O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou.
No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Bonjour, nous revoici à notre rendez-vous avec le Samba do Ernesto, en hommage à Ernesto, notre ami qui a créé l'émission Que Vive à la Musica, maintenant une des plus anciennes de Radio Galère. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous mensuel avec la musique brésilienne, le Passeio Brasileiro, Passeio Brasileño pour les hispanophones. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité mon ami Cristiano Nascimento, guitariste que j'avais déjà invité ici, mais compositeur, chef d'orchestre à l'occasion, arrangeur. Eh bien oui, tu étais chef d'orchestre au Ballet Gaffiella, plus ou moins. Leader du groupe.
On peut pas appeler chef d'orchestre, ça. Directeur de climat.
Voilà. Et aujourd'hui, en plus, au titre de principal organisateur et âme, avec sa compagne Claire Luzi, du Festival international de Choro qui va se dérouler les prochains jours à Aix-en-Provence. Alors, bonjour Christian.
Bonjour Jean-José, merci beaucoup pour l'invitation. Bon.
Et bonjour aussi Maître Sidi, c'est toujours
bonjour,
lui
Sidi,
qui nous permet d'enchaîner conversation, musique, sans temps mort. Et tout de suite, puisqu'on parle du Choro, je vais te faire entendre quelque chose que je pense que tu reconnaîtras. Thank you. je pensais que j'arriverais pas à te faire une totale surprise. Tu sais de quoi il s'agit, tu sais où ça se passe et tu connais les gens. Il faut dire, je dis à nos auditeurs, que ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur le canal d'un groupe de Rio qui s'appelle Choro no Recreio, où ils ont mis plein de petites vidéos de gens qui jouent du choro en ville. Et donc ici, dis-nous ce que c'était.
Oui, c'est une roda de choro à l'école portátil de musique à Rio de Janeiro. Là, c'est sûrement après chaque cours, les élèves, avant de commencer le bandon, la grande orchestre avec tous les élèves. À l'époque, c'était 300, 400 élèves qui jouaient des arrangements de prof. Et là, ils font une roda de choro informelle. Donc, je connais la plupart des musiciens qui étaient là. Mariana, na flûte, Luiz Barcelos, j'ai vu à la mandoline. Et ça date là. Je crois que ça fait un bon moment.
Début des années 2000, je crois.
Oui, ouais. Il y a plein de gens qui étaient bien gamins, là, qui aujourd'hui sont plus vieux.
Bon, alors justement, tu as prononcé le premier mot-clé qui va revenir souvent, celui de la rode. Alors, décris ce qu'on voyait à l'image ici. Bon, c'est une rode un peu particulière, puisque c'est dans un cadre de transmission presque scolaire. Mais ce qu'on voyait, c'est des gens de différents âges, de différentes couleurs. Je pense aussi de différents niveaux musicaux, mais qui sont assis en rond. Et qui font cette musique. Alors, la rode, c'est quelque chose de clé comme structure et aussi comme atmosphère. Comment tu pourrais la décrire ?
En fait, là, on parlait d'une école, mais là, la rode, c'est la vraie école de chorão, de musiciens qui jouent du choro, ou qui vont apprendre à jouer ces répertoires-là. C'est dans les rodes du choro. Et même les profs, là, ils sont dans un contexte plus... académique, ils ont systématisé une chose, mais ils ont pris de la rode et ils disent, on vous apprend comme ici, vous avez même des partitions et tout ça, mais c'est dans les rodes de choses. Si vous ne faites pas de rodes de choses, ne participez pas, ça ne sert à rien.
Donc le principe de la rode, c'est...
On joue
le mot portugais, qui veut dire on est en rond.
Ronde.
Et donc, au départ, les musiciens jouent entre eux, ce n'est pas un show.
Não, c'est pas um show. Uma roda de choro, ça me fait rigoler mesmo que o Brasil, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, viens, on va à une roda de choro dans tel bar. Não, c'est faux, c'est pas une roda de choro. C'est um grupo que é embauché, que é sur une petite scène, ou même se eles são rondes, eles são. E c'est fermé, c'est pas ouvert. C'est pas une roda de choro. C'est um grupo que fait. Façon roda de choro, mais c'est embauché par le bar, pour vendre des bières, et tout ça. Pour moi, ça, c'est pas une roda de choro. C'est un groupe qui met pas en question la qualité. Ça peut être des super musiciens qui jouent comme des dieux, mais c'est pas une roda de choro. C'est des gens embauchés par un patron de bar. Mais une roda de choro, non, la plupart du temps, c'est pas si public que ça. Il y a une idée... reçu ici en Europe, que parfois, il y a tout le bar, moi, j'ai fréquenté, c'était, ça peut avoir dans le bar, mais de façon spontanée, parce qu'on est en train de boire une bière ici, on tire l'instrument, on fait, mais ça va être spontané, mais pas toutes les semaines, dans ces bars. Ceux qui font toutes les semaines dans le bar, c'est un groupe embauché. Et les rodes vont se passer dans un lieu privé, chez quelqu'un qui va faire une fête d'anniversaire, ou même régulièrement, va faire des rodes de choro. Là, à la maison, on va faire à chaque 15 jours une rode. Et qui n'est pas si ouverte que ça, parce que soit tu es invité par le lote, ou tu connais un musicien qui dit « Ah, viens, on va à une rode de choro, je t'amène là, je te présente. » Et commence à participer. C'est comme ça que j'étais introduit, que j'ai commencé à fréquenter. « Ah, viens, je fais une rode à la maison, il y a tel, je te présente, tu vas voir. » C'est comme ça que j'ai connu mon maître, Walter Silva. C'était une copine comme moi. Ah, il vient à la maison, là. C'est quand je te présente, si tu veux.
Bon,
mais c'était chez quelqu'un, dans un cercle privé. Ouais. Donc,
Alors, il y a eu aussi... Alors, le show a toute une histoire. On ne va pas la raconter en détail, mais il vient du mariage d'un certain nombre de mélodies et d'harmonies venues d'Europe et des syncopes... qui venaient plutôt des esclaves afro-brésiliens, nés au XIXe siècle. Mais les grands maîtres dont on a le plus retenu le nom En particulier à partir du moment où on a eu de la musique enregistrée. Bon, il y a des noms qu'on entend toujours. Bah, déjà, l'auteur du morceau qu'on a entendu tout à l'heure, Pichinguin. Bah, on va entendre ce morceau par Pichinguin lui-même et ensuite on parlera de, musicalement, ce que c'est que le cholo. Christian a rectifié, c'était, il a reconnu tout de suite celui qui jouait, Lupers Milland, tu peux en dire deux mots?
Oui, c'est...
Il a un jeu particulier.
Un jeu particulier, c'est, on a deux écoles de mandoline, si on peut dire, au Brésil. Il y a Lupers Milland avec ses jeux, il était un grand, grand virtuose, hein, qui vient, il venait du nord-est du Brésil, et tout, je ne sais pas exactement quelle ville, et tout, et Jacó, de mandoline. Qui est tout un autre jeu. Mmh. On peut dire un jeu plus carioca. Mmh. Et peut-être moins virtuose, même si c'est virtueux, que Lupers. Mais...
Okay, donc c'était un enregistrement de 1934. On entendait, ça gratte un peu. Donc une autre manière de jouer, ce qu'on avait entendu tout à l'heure dans la rue, à l'école portative. Donc, la composition était de Pichinguin. Alors, après, elle a été re-signée, Pichinguin, à Bénédicte Lacerda. Bon, on aura l'occasion de parler de ce couple que j'appelle les Lennon et McCartney du cholo. Et donc, en général, la plupart du temps, donc, le cholo est une musique instrumentale.
Oui.
Donc, quels sont les principaux instruments qu'on entend le plus souvent ?
Plus souvent, donc pour les solistes, on va entendre beaucoup la flûte, beaucoup la mandoline. Le clarinette aussi, la clarinette après, mais les deux premiers, flûte et mandoline, c'est beaucoup. Mmh. Il y a beaucoup. Donc clarinette, mais on peut avoir des trombones, comme on a le Zelda Vell, ou trompette, comme soliste, saxophone aussi, même si c'est un peu plus rare, mais il y a eu pas mal, il y a beaucoup en ce moment, de jeunes instrumentistes de saxophone et tout. Dans l'accompagnement, nous avons la guitare à 6 cordes et guitare à 7 cordes, qui font tout un travail ensemble là, de harmonisation. Le cavaquinho, qui c'est un genre de petite guitare, qu'on peut de loin, on peut confondre avec un ukulélé, mais non, c'est un cavaquinho, c'est une corde d'acier, instrument portugais. Et le pandeiro, j'ai oublié.
Le tambourin.
Sonnet, c'est le tambourin, mm-hmm. C'est un genre de tambourin. Mm-hmm. Un tambour à cadre avec des cymbalettes autour, qu'on appelle pandeiro.
Oui.
Ça, donc, c'est l'instrument de base. Après, on peut retrouver des orchestrations, qu'on appelle les orchestres gaffiers. Ça ressemblerait un peu au big band.
Oui, on va en entendre tout à l'heure, parce qu'on va, on va essayer de parcourir diverses déclinaisons du choro à travers les âges et selon les formations. Et je disais tout à l'heure que il est plus rare d'entendre des choros chanter. Cependant, sans doute la musique que quelques-uns appellent le deuxième hymne national du Brésil est un choro chanté qu'on va entendre maintenant.
Não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
Donc on a entendu la version de référence de Carinhos en 1937 avec Orlando Silva au chant, dans ce chant, des chanteurs de radio très, très lyriques, avec plein de vibrato et d'émotions. Et bon, il y a toute une histoire, parce que c'est toi qui me racontais que tu avais vu un concert où Yamandou Koch avait commencé. C'est pas toi qui m'as raconté. Que, ben, on m'a raconté que Yamandou Costa faisait un concert à Rio et commence à jouer Carinhoso. Toute la foule a commencé à chanter en chœur. Et donc finalement, il s'est contenté d'accompagner la foule en faisant les accords à la guitare, parce que c'était devenu impossible de jouer.
Mais ça arrive avec n'importe qui commence à jouer ces morceaux, tout le monde va chanter. Hein. Oui. Au Brésil, vous commencez les trois premières notes et vous pouvez lancer que tout le monde chante ça.
Et alors ça me fait plaisir parce que j'écoute beaucoup ce que me disent les puristes de toutes les musiques et en même temps je vois que ça ne marche jamais le purisme puisque... Carinhos, qui a été le plus grand tube, qui a fait gagner de l'argent à Pixinguinha à l'époque, ce qui n'est pas toujours évident pour les musiciens de choro, a d'abord été rejeté par les musiciens de choro. Il l'a composé très jeune, hein, en 1917, mais apparemment, ce n'était pas orthodoxe parce qu'il était en deux parties et qu'officiellement, il fallait qu'un morceau de choro ait trois parties. Mmh. Donc, il a mis très longtemps à l'enregistrer. Il y a eu plusieurs versions. Et deuxième choc pour les puristes, c'est quand Jean Dubarro a mis des paroles très romantiques dessus et que c'est devenu une chanson à succès. Et alors là, évidemment, il y en a qui se sont pincés le nez en disant « Quelle horreur, maintenant on chante sur le choro ». Et troisième chose pour laquelle on a critiqué à l'époque Pixinguinha, c'est en disant que c'était impur parce qu'il y avait des choses qui ressemblaient à du jazz dedans. Bon, donc, les puristes avaient tort, parce que c'est resté, et c'est effectivement un des plus grands morceaux qui a un nombre absolument incroyable de reprises dans tous les styles, les meilleurs comme les pires, mais ça attire toutes sortes de musiciens. Toi, ça t'arrive de pratiquer le choro cansan ou...
Oui, en accompagnant des chanteurs, chanteuses, et ça m'est arrivé. Rio, mais plutôt des samba. De toute façon, j'accompagnais beaucoup plus des samba que de choro, chanter. Mmh. Parce que pour gagner le pain, Rio, là, ça c'est le choro, c'est le moment, c'est le plaisir des musiciens. C'est le moment des musiciens. Mais après, pour gagner le pain, c'était dans les balles, jouer de choro, mais beaucoup, beaucoup de samba quand même. C'est.
Ben, on aura l'occasion d'en reparler, mais justement, c'est le son qu'on entend, les vieux samba classiques, ceux qu'on aime des années 30-40, le son de l'accompagnement, c'est des musiciens de choro.
Parce que c'est les choros, parce que toutes les radios, il y avait un groupe de choro, il y avait leur orchestre, mais c'était plus simple aussi, parce que les musiciens de choro, ils pouvaient... avait une flexibilité d'accompagner n'importe quelle tonalité là, sur le tas, n'importe quel chanteur. On commençait, on faisait juste un point là et c'est parti. Le flûtiste inventait une introduction, le groupe commençait à accompagner et tous les chanteurs pouvaient chanter leur répertoire là. C'était la mini-orchestre de toutes les radios et c'était en live, quoi, direct. C'est ce sont les musiciens qui ont forgé beaucoup de ce qu'on a de musique brésilienne aujourd'hui, même de jeux, des techniques. C'était ça qui a formé les grands virtuoses de notre histoire.
Et l'intérêt pour eux de l'arrivée de la radio, c'est qu'enfin, ils pouvaient, même si c'était des cachets énormes, être presque régulièrement payés. En faisant de la musique, alors qu'avant, on voit pour beaucoup d'entre eux, pour des gens comme Pixinguinha, très tôt, il est vraiment devenu musicien professionnel avec son orchestre, il est même venu en France au début des années 20, mais pour d'autres, quand on regarde leur biographie, on s'aperçoit, celui-là est fonctionnaire dans un ministère, l'autre a un autre travail, et on voit à partir des années 30, je pense à Jacob de Bandolin, dont on reparlera, seulement dans les années 30, qu'enfin il a un engagement à la radio et qu'il peut laisser son boulot parce qu'on va le payer pour faire de la musique. Ça n'a pas été tout de suite, même si c'est des gens qui jouaient très jeunes.
Je
me
demande s'il n'est pas resté quand même dans son boulot. Là, il était fonctionnaire, je crois qu'il est resté jusqu'à la fin quand même fonctionnaire.
Ah, il faudrait vérifier.
Je ne sais pas. Ça, je suis très mauvais en histoire. Je retiens quelques histoires qu'on m'a racontées dans les rôles des vieux. Des choses que je lis, mais...
mais c'est comme ça que c'est intéressant. Quand on veut chercher, on va dans les livres. Autrement, ça se transmet avec anecdotes, des conversations. Alors là, le choro a voyagé même d'une manière quelquefois étrange. Et il m'est arrivé de parler avec des gens en disant « Mais si, tu en connais !» Alors on me dit « Mais non, j'ai jamais entendu ça. Mais tu vas voir que tu vas entendre. Et Sidi va nous envoyer quelque chose. »
Tico par-ci, tico-tico par-là, dans toutes ces villes on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé d'un sombrero, les cuisses bien à plat, sur son cheval il se promène à petits pas. De ses cheveux frisés, lustrés de gomina, il fait rêver toutes les belles de la Rambla. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la tête des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Tico-tico devint l'unique légataire de son cheval, de son magot et de ses terres. Il peut garder devant chacun son sombrero. C'est un cavallero, tico-tico. Tico-tico par-ci, tico-tico par-là. Mais que fait-il exactement ce garçon-là? Sur le coup de midi, il prend son malacca. Pour remplir toute une journée, ça ne suffit pas. Pour être plus précis, un jour on le pressa de s'expliquer à la police sur son pas. Quand on le relâcha, un bon gendarme a dit: il n'y a vraiment pas de quoi faire un chat. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Tico-tico devint l'unique légataire de son cheval, de son magot et de ses terres. Il peut garder devant tout le monde son sombrero. C'est un vrai caballero, tico-tico. Tico!
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 Oh, tico-tico-tico! Oh, tico-tico! Tico-tico, tico-tico, tico-tico. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison qu'il habita, tout le gratin de l'Alcala y défila. Et depuis le corps malgache des affaires, il a de l'or à ne pas savoir qu'en faire. Quand on veut tenir son rang, il faut ce qu'il faut. C'est mes caballeros, tico tico. Qu'il faisait la traite des noirs à Buenos Aires. Tico Tico par correction a pris la même profession, mais il a dû pour son honneur changer de couleur. Et depuis Torma de la gratisse des affaires, il a de l'or à ne vraiment savoir qu'en faire. Parce que l'on veut tenir son rang, il faut ce qu'il faut. C'est un vrai cavallero, Tico Tico.
Ah, j'ai réussi à surprendre Cristiano, il n'avait jamais entendu celle-là. Donc c'était en 1946 en France, une chanteuse de variété rigolote qui s'appelait Lynn Clevers. Il y a eu deux enregistrements par deux chanteuses différentes en 1946 de cette chanson. Et tu m'as fait une remarque à propos de l'accompagnement.
Oui, oui, c'est le cliché, c'est comme les Américains qu'on vont faire, ils ont fait avec Carmen aussi parfois. Les clichés rythmiques et un peu latin jazz, que ça sonne plus latin jazz que brésilien, en oui, fait. Oui.
Mais comme beaucoup de ces chansons brésiliennes qui arrivent à la fin des années 40 en France, probablement grâce à l'entremise de l'orchestre de Ray Ventura, qui avait passé les 4 ans de la guerre à jouer à Rio au Casino de Urca. Les gens reprennent ça avec tout un tas de caricatures, aussi bien dans les paroles que dans la musique, parce que les paroles mélangent tous les pays d'Amérique latine en faisant un seul. Bon, n'empêche que ça a eu l'avantage que beaucoup de gens ont eu au moins la mélodie de Tico Tico sans même savoir d'où ça venait, mais elle est devenue mondiale dès ces années-là. D'ailleurs... notre ami Yves Guenoun, que je salue, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui avec nous.
Salut Yves.
Parce qu'il est malade, me disait que c'est au début des années 50 que pour la première fois, dans un entracte de cinéma, le premier show qu'il a entendu, il ne savait pas évidemment, c'était un très jeune garçon, ce que c'était, mais ça date du début des années 50, en Afrique du Nord, il entend un show au milieu d'un spectacle comme ça. Bon, mais dans ces années-là, les années 40, début des années 50, c'est le moment du grand développement, on en parlait tout à l'heure, des orchestres de gaffier, là, où donc on enrichit de plus en plus les orchestrations de choro, on met des groupes plus nombreux autour, quelquefois, tu le disais, qui vont jusqu'à la taille des big bands américains. Mmh. Et là, ça devient ce que ce n'était pas forcément au départ, une musique de danse. Donc, on va entendre ce que ça peut donner, la même musique, mais pour des danseurs au début des années 50. Avec des arrangements spectaculaires pour salle de bal. Au début, on aurait cru qu'elle allait commencer un passo doble. Et puis à la fin, ce ta-ta-ta, comme ça. Bon, au moins les danseurs savent que c'est fini. Donc, on avait ici Sivouk, qui devait être bien jeune en 1952. Je n'ai pas vérifié, mais vu le nombre d'années qu'il a joué, effectivement. Et donc, ça, c'était version pour faire danser les gens. Et on remarquait que dans l'orchestre, par exemple, on entendait un son un peu inhabituel, qui est celui d'une contrebasse. Mais quand l'orchestre devient un peu plus volumineux, il n'y a plus seulement la guitare à sept cordes, il y a aussi la contrebasse.
Non, mais même dans les disques de régional, on peut entendre dans les disques de Jaco, par exemple, il y avait, même si c'était un groupe, un petit groupe, il y avait la contrebasse. Au fond, en plus de la 7 cordes, le 6 cordes. Mmh. Mais très discrète.
Oui, bien sûr.
Juste pour
arrondir le son. Ouais. Donc, alors le solo est passé par diverses formes d'orchestration. Comme d'autres musiques à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Musique qui était née, par exemple, il y a une époque où le solo se jouait beaucoup dans les pianos, donc il fallait déjà être chez la petite bourgeoisie parce qu'il fallait se payer un piano et une pièce pour faire du piano. Mais le circuit pour atteindre le public, ça a été pareil en Europe avec la musique classique, ça a souvent été les fanfares. Et je voudrais faire entendre maintenant un des plus anciens enregistrements qui existent d'un classique du solo que tu reconnaîtras évidemment.
Thank you.
Excusez-nous, il y en a un qui est parti trop vite. On avait un morceau d'avance, on l'entendra tout à l'heure. Ça peut partir là ? Vas-y.
Brejeiro, tango, pela banda do corpo de bombeiros, pra casa Edson, Rio de Janeiro.
C'est un des plus vieux enregistrements écoutables qu'on trouve dans la musique brésilienne. Alors, ça, c'était en 1904, la fanfare des pompiers de Rio de Janeiro, qui jouait Brejeiro de Ernesto Nazareth. Alors, Ernesto Nazareth, c'était un pianiste, lui.
Oui, un grand pianiste, passionné par Chopin. Il était un passionné de Chopin et ça s'entend dans sa musique. On fait même une blague, une petite blague, on dit que Nazareth, c'est Chopin. Il était né au Brésil, ou s'il était africain, c'est un Chopin africain, ça fait Ernesto Nazareth. Oui. Donc ça donne cette musique pétillante et c'est un des grands piliers de la musique brésilienne, composé énormément de choses et des très très belles pages de musique. Et moi, particulièrement, c'est mon compositeur préféré. Où on trouve vraiment, quand on écoute sa musique, on trouve les bases vraiment, et c'est d'une beauté incroyable. Ça me touche beaucoup, ce compositeur, Ernesto Nazareth.
Et là, à propos de cette fanfare, bon, on parlait pendant que le micro était coupé. On disait que c'était un son qu'on aurait du mal à avoir dans une fanfare européenne, mais que pour moi, je le rapproche quelquefois au très vieux son qu'on peut avoir des fanfares à la Nouvelle-Orléans du temps du ragtime. Parce qu'il y a, il y a une espèce d'extrême précision et un swing dans le rythme qui n'est pas dans les habitudes des fanfares européennes. Quoi. Mm-hmm. Il n'y a plus du tout le côté militaire de la fanfare là-dedans.
Oui, mais on peut avoir aussi ce côté militaire, parce que faisait partie d'un autre style, comme les marchings, tu vois, les dobrades, tout ça. On peut voir ce côté militaire, mais que... Il y a toujours ces,
oui,
ces déhanchés.
Oui, ici, ça invite plutôt effectivement, au marché déhanché et à la danse dans la rue. Voilà, oui, effectivement, alors le show, donc, c'est promener du salon au quintal, la cour. Il s'est promené du piano au fanfare. Et de temps en temps, il est allé voir aussi, il a intéressé des musiciens. Eux complètement dans l'univers de la musique classique, des orchestres, etc. Et on va en entendre un petit peu ce que ça donne quand il sort de l'univers strict de la Rhode, mais qui va se matiner de ce qu'il y a dans les environs. Donc ça, c'était de nouveau Bléger, le de Ernest Nazareth, mais cette fois-ci joué par une guitariste classique. Tu as entendu du premier coup que ça venait dans un autre style. On l'avait vu il y a quelques mois à Marseille, c'est Gaël Solal, quelqu'un qui a fait ses études d'abord au Conservatoire de Marseille, puis qui ensuite a été étudié avec Roland Diens. Il a fait un album donc entièrement guitare solo en hommage à Villa-Lobos, mais elle a tenu à mettre dedans trois ou quatre choses que Villa-Lobos aimait aussi, parce que moi je trouve qu'on entend quand elle joue, que c'est pas seulement comme quelquefois quand on entend Villa-Lobos, quelqu'un qui est d'un monde classique européen, qui prend une partition et qui la joue. Elle est allée plusieurs fois traîner dans les Rhodes à Rio avant d'oser enregistrer quelque chose en disant il faut qu'il y ait un peu le sel et le poivre brésilien, sinon ça devient quelquefois très fade. Et justement, Villa-Lobos a composé. Alors, quelquefois, je suis un peu perplexe parce que je connais pas assez la technique, mais il y a des choses qui s'appellent choro chez lui. Je vois plus du tout le rapport avec le choro. Alors, je ne sais pas si j'ai tort.
Il y a des choses qu'on peut être. Se demander où est la rythmique parce qu'il ne va pas faire un truc explicite. Mais par exemple, il y a le choro numéro 10, lequel il y a un scottish de Anacleto de Medeiros, par exemple, dedans, mais que ça ne ressemble pas du tout au choro. Il y a mis un arrangement tellement. J'adore. Hein, j'adore, mais. Qu'on ne peut pas entendre le choro comme choro. Il faut vraiment.
C'est plus intime.
Trouver autrement, c'est plus intime.
Ouais.
Mais quand on connaît un peu le style, on reconnaît certaines choses de choro. Notamment, là, c'est le plus explicite, c'est le choro numéro 10. Il y a carrément la mélodie avec les... Si je ne me trompe pas, il y a même les paroles. Il y a gardé les paroles originales dedans, le chœur qui chante. C'est magnifique. Hein. Choro numéro 10.
Alors ça, c'est pas toujours fait dans la facilité, puisque on raconte que lui, son instrument préféré, c'était la guitare,
mais oui,
que
c'est pas, hein,
c'est
il
pas du tout ça.
Choro.
Oui, mais c'est pas du tout ça que cherchait sa famille au départ, qui lui avait fait faire du violoncelle parce que c'était beaucoup plus chic et beaucoup plus noble. Mais donc, il allait s'encanailler entre guillemets dans les Rhodes de Choro, ce qui c'est un des éléments qui ont permis à sa musique de toujours garder ce caractère tellement brésilien, quoi. Même quand il écrit pour grand orchestre.
Ah oui, c'est vraiment, il a gardé cette brasilité. Vraiment, peut-être c'est dû à ces Rhodes de Choro qu'il a fréquenté, qu'il sautait la fenêtre le soir pour y aller dans la bohémie. Donc c'était un grand chorão. Un guitariste qui accompagnait.
Et donc, il y a eu des. Chez les gens du choro, il y a eu aussi une tradition. On en parlait tout à l'heure pour Pixinguinha, qui a eu des contrats dans les années 30 avec les radios, non seulement pour accompagner, mais pour concevoir les arrangements.
Oui. Diriger l'orchestre.
Oui, diriger. Donc,
le programme pessoal da Velha Guarda, qui a dirigé, qui avait l'orchestre.
C'était une musique. Alors, j'aime pas beaucoup les distinctions entre musique populaire et savante, parce qu'il y a des musiques populaires qui sont très savantes. Mais en tout cas, c'est une musique qui se sophistique, qui se devient plus complexe. Et il y a aussi une tradition qui vient de là. Ben là, on va entendre un hommage à un musicien qui, d'ailleurs, avait succédé à Pixinguinha dans son rôle d'arrangeur pour la radio.
Thank you.